connaître nos émotions. Cette activité, c'est le rêve et c'est le thème de Carnet de Santé.
Marina Carrère d'Encausse.
On va tenter de comprendre pourquoi les sourds-entendent et les aveugles voient dans leurs rêves et pourquoi certains peuvent modifier volontairement ces rêves. Et on verra surtout comment les scientifiques ont accès à cette activité nocturne qui nous concerne tous. Le professeur Isabelle Arnulf, neurologue, répondra à nos questions.
Carnet de Santé, chaque samedi à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 11h, passé de quelques secondes, c'est l'heure de vous retrouver, Julie Gacon, pour Culture Monde. Bonjour Julie.
Bonjour Géraldine Osna-Savoie.
Et désolée pour ce retard.
Je vous en prie, merci à vous.
Bonne émission.
Merci. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Cette émission est préparée par Sacha Mattei, Quentin Péchard, Gwendoline Troiano, Joséphine Reynard et Christine Angers. Elle est réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Comme chaque vendredi, nous vous proposons une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec notre partenaire du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Au sommaire de l'émission de ce jour, le sommet des BRICS qui s'est tenu cette semaine à Kazan en Russie. Tout a concouru à donner à Vladimir Poutine haute bien aise d'être entouré d'autant de chefs d'État. L'occasion de se montrer beaucoup moins isolé que d'aucuns voudraient le croire. De plus en plus de pays voudraient rejoindre cette alliance au départ très restreinte mais qui s'ouvre à de nouveaux membres et de nouveaux partenaires. Envisagent-ils tous les BRICS comme un ordre mondial alternatif dominé par la Russie et la Chine? Pour évoquer ces enjeux, nous avons invité ce matin Olivier Dallage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde et de la péninsule arabique. Bonjour Alexandre Kateb.
Bonjour.
Kateb, vous êtes économiste, essayiste et consultant spécialisé dans les relations internationales. On vous rejoindra tout à l'heure pour cette discussion sur les BRICS. Mais d'abord, comme chaque vendredi, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert. Londres. Le journaliste que nous recevons ce matin a suivi de jeunes résistants à la junte militaire qui s'est imposée en Birmanie il y a maintenant plus de 3 ans et demi. Et parmi tous ces destins bousculés et meurtris, vous en avez suivi un en particulier, un jeune poète pacifiste pour qui les mots ne suffisaient plus et qui a levé une armée dans la jungle. Bonjour Guillaume Pajot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez passé un mois en Birmanie après avoir passé illégalement la frontière depuis la Thaïlande. Vous êtes donc arrivé par l'Est et notamment par la ville de Papoune, alors encore sous les feux de la guerre. On va s'arrêter avec vous quelques secondes à Papoune, à l'aller si vous voulez bien. On la retrouvera au retour ensuite. Dans quel état est cette ville quand vous y passez la première fois?
Papoune, la plus grande ville du nord de l'État Karen, est une ville quasiment détruite. Quand j'y suis allé, c'est un champ de ruines. On a l'impression qu'un séisme est passé, tout le monde est parti. Il reste quelques habitants autour qui se cachent dans la forêt, mais personne n'ose vraiment y revenir y vivre, alors que c'est une ville qui a été conquise par la résistance.
Voilà, elle vient de tomber, quand vous arrivez, elle vient de tomber aux mains de la résistance. On la retrouvera plus tard, cette ville de Papoune, car vous avez d'abord rendez-vous avec un homme. Vous devez traverser plusieurs hameaux vidés par la guerre, écrivez-vous, dressés sur les collines comme autant de sépultures, pour retrouver un poète birman du nom de Maung Sangha, retranché dans la jungle, et vous faites son long portrait dans la revue 21. Quel poète était-il avant la guerre, et quand vous l'aviez rencontré la première fois?
Maung Sangha, c'est une personnalité très attachante et très connue en Birmanie. C'est une personne qui, avant le coup d'État, était un activiste pro-démocratie et un poète qui était plutôt spécialisé dans les rimes drôles, salaces. C'est une personnalité facétieuse et blagueuse.
Vous parlez de son style débridé mêlant la politique, l'art, Van Gogh ou Cat Power.
Effectivement, c'est pas forcément quelqu'un qu'on mettrait aujourd'hui dans les grands canons de la littérature, mais c'est quelqu'un qui, dont les poèmes faisaient leur chemin sur les réseaux sociaux, sur Facebook, faisaient rire les gens et injectaient un petit peu de politique dans leur vie. Et après le coup d'État, il a manifesté pacifiquement contre la junte militaire. Effectivement, il a vu très vite que ça ne suffisait pas. Les manifestations, on s'en souvient, en 2021, ont été réprimées, les gens étaient massacrés dans les rues. Et il a décidé, avec 16 autres camarades, de partir dans la jungle et de fonder sa propre armée.
Il avait publié déjà, avant le coup d'État militaire, plusieurs recueils, dont le plus célèbre, Souffrance cachée au pluriel, a été écrit en 2015 en prison. Qu'est-ce qui lui avait valu, à cette époque, une peine de 6 mois de prison dans un cachot de Rangoon ?
C'était un poème. Déjà, en 2015, effectivement, il avait écrit un poème assez rigolo et assez potache, toujours dans son style, dans lequel il comparait, il prétendait en fait que le jour de la nuit de noces, sa femme avait été écœurée en le voyant nu parce qu'il avait le portrait du président de l'époque, qui s'appelait Tet Sen, tatoué sur son pénis. Elle avait découvert ça le jour de son mariage.
Elle était partie. Enfin, voilà. Je sais pas si elle était partie, mais elle était inconsolable.
Et la chute du poème, c'était... Ma femme est dégoûtée, voilà. Et quelqu'un avait porté plainte au nom du président en disant le président a été diffamé par ce poète, il faut pas laisser passer ça. Et il avait eu un procès qui était complètement absurde où les gens discutaient de savoir est-ce qu'il a vraiment le pénis tatoué ou pas, est-ce que c'est de la fiction ou pas. Et il avait pris 6 mois de prison pour ça.
Lui jurait par la poésie, la poésie dont vous rappelez dans votre article qu'elle joue un rôle politique en Birmanie, au moins depuis la lutte pour l'indépendance à la fin du 19e, on fait que des pamphlets contre les colons britanniques qui circulaient sous le manteau. Alors quelques mois après sa sortie de prison, Aung San Suu Kyi sera élue à la tête du gouvernement. Ce poète, il était plutôt son soutien, il militait dans les jeunesses, les mouvements de jeunes du parti, mais elle déçoit le poète en accordant trop de concessions aux militaires, il quitte le parti. Le jour du coup d'État militaire, on le cherche. Votre article raconte ce qui s'est passé lors de ces journées à la fois confuses et sanglantes. Quand est-ce que vous recevez à nouveau de ces nouvelles ? Parce qu'il disparaît à un moment.
Moi, c'est quelqu'un que je connais effectivement depuis bien avant le coup d'État. Et au moment du coup d'État, tout de suite, je le suis parce qu'il est très engagé dans les manifestations dès les premiers jours. On se donne des nouvelles, je l'interview pour des articles, on a des contacts très réguliers. Et à un moment donné, au bout de 2-3 semaines, quand les manifestations commencent à se faire réprimer de plus violemment, j'ai plus du tout de nouvelles pendant plusieurs semaines. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il est arrêté ou pas? Parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de contacts, beaucoup d'amis qui étaient arrêtés, qui disparaissaient, qui réapparaissaient parfois. Donc on commençait à être un peu inquiet. Et au bout de quelques semaines, il m'envoie un message. Désolé, je suis plus à Rangoon, je suis dans la jungle.
Voilà, il a trouvé refuge, ce poète Maung San Ka, dans l'État Karen, à l'est de la Birmanie, à la frontière avec la Thaïlande, auprès des soldats de l'armée Karen de Libération Nationale. Est-ce que c'était naturel que lui, le Bamar, ce peuple majoritaire en Birmanie, soit accueilli par une guérilla de la minorité Karen ?
Non, pas forcément. C'est ça qui est intéressant aussi dans son histoire. Maung San Ka, comme Aung San Suu Kyi, comme la plupart des figures influentes de l'histoire de la Birmanie, c'est un Bamar, un membre de l'ethnie majoritaire, pour la plupart bouddhiste. Et en fait, les autres ethnies minoritaires ont beaucoup de méfiance vis-à-vis des Bamars qui accaparent le pouvoir depuis la naissance du pays. Et donc effectivement, voir après le coup d'État les minorités ethniques dans l'État Karen, mais aussi dans d'autres États, accueillir les jeunes Bamars qui voulaient, eux, se battre, c'était quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, et une forme de solidarité, d'union nationale, entre guillemets, qui était quelque chose que personne n'avait jamais vraiment réussi à créer depuis l'indépendance du pays. Donc il y a cette sorte d'alliance entre des Bamars de l'ethnie majoritaire et des membres des minorités ethniques contre la junte, qui font front face à un ennemi commun.
D'autant que lui, le poète Maung San Ka, a peu plaidé le fait, et les Karen s'en souviennent, qu'il a été l'un des rares Bamars à plaider pour leur droit à eux, des Karen, quand en 2020, leur province a été privée d'Internet. Il s'était très souvent mobilisé et fait entendre pour instaurer un État fédéral et démocratique. Donc les Karen vont jusqu'à l'aider à monter son propre groupe, l'armée de libération du peuple Bamar, qui ne se bat jamais seul, mais toujours en renfort des soldats Karen. Comment est-ce qu'elle est formée et armée? Cette armée du peuple Bamar montée par le poète San Ka.
C'est une petite armée. C'est environ 1 millier d'hommes. Voilà, un chiffre que lui-même refuse de confirmer pour rester, pour peser un petit peu plus encore dans les débats et les alliances. C'est une armée qui vient en soutien de différents groupes ethniques à différents endroits du pays, parfois très loin de leur base de l'État Karen. Donc un peu une armée d'appui. Voilà, mais lui, ça lui permet de placer ses pions auprès de différents groupes, de faire le lien entre différents groupes comme ça, et c'est un des rares à réussir à le faire. Ils ont très très peu de moyens, ça reste un mouvement armé de bric et de broc. Voilà. Les armes sont très très peu nombreuses, les conditions de vie sont extrêmement précaires, c'est la jungle, donc c'est la maladie, les insectes, des repas qui se ressemblent tous, faits de riz, de riz, de riz, et encore de riz, et parfois il y a un œuf, et c'est génial, mais les gens s'ennuient, sont... Voilà, très mal nourris, un peu désœuvrés, et attendent la prochaine bataille ou mettent leur force. Mais ils ont très, très, très peu de moyens.
Est-ce que lui finance son armée aussi en vendant des livres de poésie ?
Il a vendu beaucoup de livres de poésie pour financer son armée, qu'on pouvait acheter sur Internet. Maintenant, il est un peu déçu parce qu'il n'arrive pas à les faire réimprimer. Compliqué. Donc, il a un peu vendu tout son stock. Mais ils vendent aussi un peu de merchandising via des gens de la diaspora birmane qui ont monté des sites internet ou des sortes de cagnottes. Voilà, donc on peut acheter, ils ont des t-shirts, parfois des suites, voilà, pour collecter de l'argent. Et ils lèvent des campagnes comme ça régulièrement et avec des mots d'ordre accrocheurs. Par exemple, donnez-nous des boucliers ou un nom de code d'opération. Et là, les gens vont donner, principalement la diaspora birmane, mais aussi des Birmans de l'intérieur, vont donner des sous pour financer le mouvement.
Et c'est aussi parce qu'il a quand même assez peu de moyens qu'il ne peut pas accueillir tous ceux qui se présentent. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit, que quand l'armée birmane a instauré le service militaire obligatoire en février dernier, beaucoup de conscrits l'ont contacté pour le rejoindre lui plutôt que l'armée birmane, et il dit qu'il n'a pas pu accueillir tout le monde.
Ouais, sur 2000, enfin, à l'époque en tout cas, sur 2000 candidatures, il en a accueilli à peu près 200, donc voilà, 10%. Effectivement, il y a la question des moyens, il y a aussi la peur de faire rentrer des espions, des gens qui ne seraient pas motivés, parce que les conditions sont tellement dures, en fait, que voilà, si les gens commencent à partir, à transmettre des informations à d'autres sur comment ça se passe dans le camp, ça peut être compliqué. Donc il y a à la fois la volonté, effectivement, d'être secret, et puis cette question des moyens.
Donc il accueille des étudiants, des rappeurs, des ingénieurs, des dessinateurs, un tatoueur, d'autres poètes que lui aussi. Est-ce que lui, Mangsanka, écrit encore en pleine guerre ?
Il écrit quasiment plus. Parfois, de temps en temps, mais c'est... C'est vraiment, il dit qu'il écrira après, sans doute, mais là il écrit quasiment plus. C'est quelqu'un qui n'est plus aussi blagueur qu'il l'était à l'époque, et je pense que la guerre a sérieusement entaillé son moral. C'est un gestionnaire. Voilà, la guerre, c'est aussi une affaire de gestionnaire. Faut nourrir les hommes, trouver des armes, nouer des alliances, investir certains terrains, organiser des obsèques quand quelqu'un décède. Voilà, et lui, il est là-dedans. Il est dans ce quotidien de la guerre, dans cette intimité un peu sale, un peu pas très glamour de la guerre. Il est vraiment là-dedans. Et son inspiration, elle a disparu un petit peu avec ce processus.
Est-ce qu'on peut mesurer le rôle de cette armée de libération du peuple bamar dans le tour qu'a pris la guerre depuis un an, les défaites infligées à l'armée birmane, qui pour l'instant n'ont pas changé le cours de la guerre en tant que telle? Néanmoins, l'armée aurait perdu la moitié à peu près du pays. En tout cas, la moitié de la Birmanie ne serait plus sous contrôle. Quel est le rôle de cette armée de libération du peuple bamar dirigée par ce poète?
C'est une armée qui pèse pas très lourd sur le papier, voilà, 1000 hommes, alors que certains groupes rebelles ont 10 000, voire plus de moyens humains. Par contre, il a cette capacité à nouer des alliances, à s'investir dans différents terrains, à faire dialoguer des gens entre eux, notamment les Bamars et les membres des minorités ethniques. Voilà, donc il a vraiment une polyvalence, une capacité à faire le pont entre différents groupes, qui fait qu'il devient un peu une référence, un modèle à suivre. Il a réussi à se faire accepter aussi par les minorités ethniques. Donc c'est une grosse source d'inspiration pour beaucoup de gens en Birmanie, beaucoup de mouvements armés, parce qu'il a eu cette stratégie, cette vision, en fait, de se placer un petit peu partout et de participer avec différents groupes à différentes opérations.
Alors vous repassez par la ville de Papoune à la fin de votre reportage pour 21. Vous avez quitté Mangsanka et ses hommes, après avoir passé à peu près un mois avec eux. Est-ce que la ville, déjà, que vous aviez trouvée complètement désolée à l'arrivée, a un petit peu changé? Est-ce que la vie a un petit peu repris un mois plus tard?
Non, c'était vraiment trop court. Et la ville est aussi dans cet état parce qu'en réalité... C'est intéressant à souligner, la rébellion de Mangsanka et l'armée Karen vendent cette victoire comme étant une victoire, voilà, une avancée pour le mouvement de résistance. En réalité, les bases autour n'ont pas été prises, la ville elle-même a été prise, mais les bases autour restent occupées par des forces de l'armée birmane. Ils essayent de les conquérir, l'armée birmane se défend férocement, voilà, avec des bombardements, etc., tout autour de la ville. Donc l'affaire est loin d'être réglée pour pour les Karen et pour Mangsanga.
Alors que dans des territoires repris il y a plus longtemps déjà par la résistance, celle-ci a tenté de réinsuffler de la vie. Vous vous êtes également rendu cette fois pour le journal La Croix dans l'état Karenni. C'est un état plus petit, mais lui aussi limitrophe de la Thaïlande, Guillaume Pajot, où la résistance contre la junte revendique aujourd'hui 80% du territoire. Comment font-ils en sorte, comment fait-elle en sorte la résistance que les habitants retrouvent un semblant de vie normale?
En fait, c'est vrai que dans l'état Karenni, donc qui est au nord de l'état Karen, beaucoup d'endroits ont été nettoyé entre guillemets de la présence de la junte militaire, donc un semblant de vie commence à se réinstaller avec des tribunaux, des hôpitaux, des écoles qu'on essaye de faire fonctionner, et un petit peu une course contre la montre entre la junte qui continue à bombarder, continue à rendre le quotidien invivable, et la résistance qui au contraire a envie de montrer aux gens qu'un avenir est possible, qu'il y a une porte de sortie et qu'on peut continuer à vivre même dans ces conditions-là, rescolariser ses enfants, se faire soigner. Et oui, avoir un système judiciaire qui fonctionne.
S'il n'y a pas de système éducatif ou de système de santé, à quoi bon gagner cette guerre, vous dit un jeune commandant de 30 ans, autrefois agriculteur. Vous avez suivi un autre homme, un juge de 30 ans. C'est vrai que tous vos personnages sont non plus des enfants, bien sûr, mais des jeunes qui ont endossé de très lourdes responsabilités pendant cette guerre. Cette fois donc, il s'agit d'un juge. Qui est-il aujourd'hui chargé de juger et comment est-ce qu'il s'y prend ?
Donc ce juge qui s'appelle Sodé, que j'ai suivi, c'est un juge qui est effectivement assez jeune, qui a une trentaine d'années, qui était un ancien membre de la résistance, donc un ancien soldat, et qui se retrouve aujourd'hui à juger des membres de la junte militaire qui auraient été capturés, des prisonniers de guerre, et aussi des criminels de droit commun, voilà, des affaires de drogue, des affaires de violence intrafamiliale. Sauf qu'en fait, ils n'ont quasiment pas de moyens. Ils ne veulent pas faire les procès dans les tribunaux parce qu'ils pensent que c'est trop dangereux. Comme il le dit dans l'article, tout le monde a une arme aujourd'hui dans l'état Karenni, donc si quelqu'un n'est pas content, la situation peut vite dégénérer. Donc ils préfèrent organiser les procès dans des petits commissariats, voilà, où ils font sortir le prisonnier de sa cellule, ils font rapidement quelque chose, puis après le prisonnier re-rentre. Les conditions sont quand même très très précaires, les conditions dans lesquelles sont gardés les prisonniers aussi sont très très précaires.
Y compris des prisonniers de l'armée birmane. Il y en a certains qui sont jugés par cet homme que vous avez suivi. Cette armée birmane qui a donc multiplié les déroutes. Et le poète qu'on a quitté tout à l'heure vous a montré par exemple à un moment une sorte de trophée qui rapportait de la ville de Papoune après l'avoir reprise. Il disait, regardez, j'ai trouvé des cahiers d'écoliers et dedans il y a carrément la stratégie de l'armée birmane. Il exagère ou ce sont vraiment des amateurs, ces soldats-là, qui ont pour l'instant dû quitter l'état Karenni et une partie de l'état Karen?
Non, il a pas tout à fait tort. L'armée birmane, c'est aussi une armée qui n'a jamais brillé par sa modernité. Le général Min Aung Hlaing, qui est le chef de l'armée actuelle, c'était son grand slogan depuis son arrivée à la tête de l'armée, moderniser l'armée birmane. Donc, essayer d'acheter des avions, essayer d'avoir accès à des drones. Il s'avère que maintenant, un exemple, pour montrer à quel point l'armée birmane n'est pas forcément l'armée la plus performante. Aujourd'hui, ils s'inspirent de la résistance, par exemple, en matière de drones. C'est-à-dire que la résistance birmane, comme on l'a vu en Ukraine, a détourné des drones de loisirs pour les charger de bombes, les envoyer sur les positions de l'armée birmane. L'armée birmane avait très peu de drones, et aujourd'hui, elle se met à faire la même chose, à voir que cette guerre low-cost peut fonctionner aussi pour elle. Voilà, ce qui est un peu contre-intuitif pour une armée de métiers aussi installée au pouvoir comme l'armée birmane. Mais voilà, ça marche dans les deux sens. Et effectivement, trouver des cahiers avec des stratégies, c'est des choses que vous pouvez trouver aussi du côté de la résistance. Voilà, il nous arrive aussi de trouver parfois dans des restes de bombardement des cahiers de stratégies de la résistance birmane. Voilà, c'est aussi une guerre qui est un peu à l'arrache, entre guillemets.
L'armée birmane qui continue, par ailleurs, à être fournie en armes par la Russie et la Chine, notamment, dont on parlera tout à l'heure, dans pas très longtemps d'ailleurs, pour notre deuxième partie consacrée au sommet des BRICS, la Russie et la Chine qui ont dominé ce sommet. Peut-être un dernier mot, Guillaume Pajot, pour conclure. C'est une guerre en Birmanie qui reste, vous le disiez, à l'arrache, mais extrêmement meurtrière, qui continue, même si on parle depuis un an de défaite de l'armée, le cours de la guerre n'a pas réellement changé. Et c'était important pour vous d'y retourner, vous y retournerez. C'était une guerre qu'il faut que vous estimez plus assez traitée aujourd'hui.
En tout cas, je peux juste parler pour moi. Voilà, moi, ça fait 10 ans que je couvre la Birmanie. Avant, c'était pas la guerre. Je me suis posé la question, est-ce que je dois couvrir la guerre ou pas? J'ai continué. Voilà, il y a cette guerre qui continue, qui est installée, et je pense installée pour longtemps. Voilà, ça va durer des années maintenant. On le sait, on le voit, la résistance n'a aucun soutien international, la junte militaire est soutenue par la Chine et la Russie. Il y a un rapport de force qui est assez équilibré à l'heure actuelle. Donc, c'est une guerre qui est vraiment installée pour durer et qui va continuer à être très meurtrière, je pense, dans les années à venir.
Et créer des fantômes, et faire naître des fantômes dans les écoles bombardées, comme vous le racontez dans l'un de vos reportages. Merci beaucoup Guillaume Pajot, journaliste indépendant. On peut vous lire dans le journal La Croix. Et votre reportage auprès de l'armée du poète est à paraître dans la revue 21 dès le 4 novembre sur le site de 21 et dans l'édition papier qui sortira le 13. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Sai Panchok du groupe birman Pink Nation, originaire de Tanguy, une ville dans l'est du pays. Cette chanson date de 2020 et le groupe raconte vouloir partager son expérience de la Birmanie à travers ses chansons. On quitte la Birmanie pour notre table ronde d'actualité. Le sommet des BRICS et de leurs partenaires cette semaine à Kazan en Russie, d'une plateforme économique et un nouvel ordre mondial.
France Culture, Culture Monde. Julie Gacon.
Lors de ce sommet, nous allons discuter de la mise en œuvre de deux décisions importantes prises lors du précédent sommet de Johannesburg. Tout d'abord, approfondir la coopération financière au sein des BRICS et poursuivre l'expansion de notre association. Aujourd'hui, il est nécessaire de maintenir l'équilibre et l'efficacité des BRICS. Ces pays sont responsables de l'avenir du monde. Ils ont un réel impact sur la stabilité et la sécurité mondiale et apportent une contribution significative à la résolution de graves problèmes régionaux.
Vladimir Poutine en hôte de ses homologues des BRICS. L'année dernière, le président russe, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, n'avait pas pu se rendre au sommet de Johannesburg. Cette semaine, il était chez lui et entouré de tous les chefs d'État de l'Alliance d'origine, ainsi que des nouveaux venus, les quatre pays qui l'ont rejointe l'année dernière, Iran, Égypte, Éthiopie, Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite a été choisie aussi, mais elle hésite toujours. Et l'Argentine, de Javier Milei, a finalement décliné. Alors, quel bilan de ces quatre jours de discussion ? En plénière et bilatérale, tous les États des BRICS partagent-ils une même vision du monde ? Quel est leur plus grand dénominateur commun ? Et sur qu'est-ce qui continue à l'inverse à en tenir certains un peu plus à distance des autres ? Nous sommes toujours avec nos invités, Alexandre Kateb, économiste, essayiste, fondateur de The Multipolarity Report. C'est une plateforme de prospective en géopolitique et en finance internationale basée sur l'intelligence artificielle, vous nous en parlerez. Et Olivier Dallage, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde et de la péninsule arabique, ancien journaliste à RFI. On commence avec votre éditorial, Marc Semo, sur la visite précisément du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Moscou. Il a été reçu hier par Vladimir Poutine.
Absolument. Alors, Antonio Guterres aurait pu se contenter d'un message pour saluer le sommet des BRICS et ces pays qui représentent malgré tout 46% de la population mondiale et un tiers du produit intérieur brut de la planète. Mais il a choisi de se rendre à Kazan et ainsi il a cautionné la grande opération de propagande d'un Poutine qui, comme tu le rappelais, est inculpé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre pour la déportation de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens. Et on peut d'ailleurs à cet égard regretter le manque de réaction des capitales occidentales. D'autant que le président russe a violé avec son agression sur l'Ukraine tous les principes de la Charte des Nations Unies, dont il était censé être l'un des garants en tant que président, chef d'État d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, Poutine est aux côtés de Xi Jinping, le fondateur de ce club informel qui est uni avant tout par une volonté de remise en cause de la domination occidentale sur le monde. Mais le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, pour ne parler que des autres pays fondateurs, ne partagent pas la volonté de la Russie et de la Chine d'un affrontement direct avec l'Occident, mais ils veulent juste, à raison, que les émergents aient une place plus importante aujourd'hui dans le système international. Et ces différences sont bien réelles, en témoignent d'ailleurs les résultats du sommet, qui n'a pas soutenu la Russie dans sa guerre ukrainienne, sans pour autant la condamner. Aucun accord non plus sur les divers projets économiques, sur une dédollarisation ou même sur un élargissement de ce club très hétérogène, très hétérogène. Mais la seule chose qui importait à Poutine, c'était la photo. C'était à bien des égards un sommet Potemkin, comme ces villages factices, créés jadis par le favori de la grande tsarine Catherine II, pour faire croire que tout allait bien.
Et je retiens votre lapsus, Marc, ces mots autorigènes plutôt qu'hétérogènes. Il y a un peu de tout dans ce sommet, des pays autoritaires et d'autres qui ne le sont pas, des démocraties qui, pour certaines, se demandent peut-être ce qu'elles viennent faire dans un certain bourbier. On parlera du Brésil, notamment, qui a mis un veto à l'entrée du Venezuela dans les BRICS. Mais d'ores et déjà, je crois, Olivier Dallage, que vous avez un point de discorde avec Marc Semo sur cette question de savoir si Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en se rendant à Kazan, a cautionné ou pas une grande opération de propagande russe.
Oui, moi je ne serais pas aussi sévère que Marc. Il y a deux aspects. D'abord, la photo, oui, elle a été prise et elle restera dans les archives, mais ça passe très vite. Qui se souvient encore qu'il y a un an, l'Inde était la reine du monde parce qu'elle présidait le sommet du G20 et pendant un an en Inde, moi j'y habitais, on voyait sur tous les murs la photo de Narendra Modi et le slogan du G20 et on avait l'impression que l'Inde était le maître du monde. Puis on est passé au Brésil et à autre chose, etc. La même chose se passera avec ce sommet de Kazan, c'est un sommet tournant, donc l'année prochaine ce sera dans un autre pays des BRICS. Oui, bien sûr, Poutine cherchait cette valorisation. L'autre chose, c'est que le secrétaire général de l'ONU et le secrétaire général des Nations Unies, de tous les pays. Et à Kazan étaient réunis, outre les BRICS, leurs partenaires, ce qui faisait 36 pays, qui représentent plus de la moitié de la population du monde. Je ne sais pas pour l'économie, mais on ne doit pas en être loin non
c'est
plus.
C'est 44% de la production mondiale de pétrole, 36% du PIB mondial.
Non, mais ça, c'est les BRICS. Il y avait 13 invités.
D'accord.
Dont l'Algérie, enfin beaucoup d'autres pays, etc. C'est son boulot de rencontrer... Alors, moi, je suis heureux de ne pas être secrétaire général des Nations Unies parce qu'il y a des choix difficiles à faire. Mais snobber le sommet des BRICS aurait été un message également problématique. Voilà, il n'est pas le secrétaire général du Benelux. Il est le secrétaire général des Nations Unies.
Et faire partie des Nations Unies, ça fait partie des critères exigés pour intégrer les BRICS. Me semble-t-il, si je vous pose cette question, c'est parce que la Palestine, Mahmoud Abbas, voulait déposer une candidature pour les BRICS et a priori, ça ne peut pas
fonctionner. De toute façon, ils ne se sont pas élargis, ils ont créé des partenariats. Donc il y a un deuxième cercle, c'est intéressant. On a l'impression que les fondateurs élargis ne veulent pas trop s'élargir. Donc il y a un deuxième cercle. Quant à la Palestine, elle est membre associée, pas État à part entière des Nations Unies, mais maintenant elle siège dans les rangées de l'Assemblée Générale. Je ne pense pas que ce soit un problème.
Alexandre Kateb, est-ce que vous diriez, comme Marc Semo, que pour l'instant rien n'a vraiment avancé sur les dossiers économiques qui intéressent les BRICS et qu'ils mettent en avant, et notamment cette idée de créer un mécanisme commercial alternatif et un système de règlement transfrontalier qui n'implique ni le dollar ni l'euro. Et on sait aussi l'intérêt bien compris qu'a la Russie à un système alternatif qui n'utilise pas le dollar et qui permet de contourner les sanctions.
Il est certain qu'il n'y a pas eu d'annonce fracassante avec des résultats des mécanismes prêts à être utilisés. Mais je pense qu'il faut, il faut voir ça dans une perspective un peu plus de moyens à long terme. Hein. Les différents pays concernés ont conscience des difficultés de mettre en place un tel système. C'est les difficultés techniques, les difficultés politiques, institutionnelles. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire immédiatement. Néanmoins, on sent dans les déclarations des uns et des autres, dans tout ce qui émane de ce sommet, notamment le forum d'affaires des BRICS, qui a eu lieu avant le forum des chefs d'État, les différentes manifestations annexes, etc., les réunions des banques centrales aussi des pays concernés, qui a cette volonté d'avancer vers la création de ces instruments. Parce qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est la peur des sanctions occidentales, qui concernent aujourd'hui la Russie, qui concernent l'Iran, et qui concernent aussi, de manière plus ou moins directe, les autres pays dans la Chine. Et demain, s'il y a une crise géopolitique majeure entre l'Occident et la Chine, eh bien là, c'est la Chine qui pourrait être victime de ces sanctions. Donc, quelle est la solution? Est-ce que ça passe par un système, je dirais, partagé par les différents pays ou des systèmes nationaux qui essaieraient de s'interconnecter les uns aux autres? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de décision claire à ce niveau-là, parce qu'il y a aussi une concurrence. La Chine, elle, veut promouvoir ses propres systèmes de paiement et veut internationaliser le rôle de sa monnaie, du yuan. Et donc, quelque part, un système porté par les BRICS pourrait faire concurrence ou pourrait faire un peu d'ombre à un système chinois. Donc, il y a des tâtonnements, mais je pense que si on se place dans cette perspective, il y a quand même des avancées.
Et on imagine bien combien l'Inde, par ailleurs, n'est pas d'accord. On en parlera, Marc Sémo.
Oui, alors justement, est-ce qu'on n'est pas quand même dans un club informel? C'était sa vocation, ça n'a jamais voulu être une organisation avec un secrétariat, une institution, mais qui est quand même, qui a un drapeau, incontestablement, mais quand même une coquille vide. C'est-à-dire, déjà en 2012, les BRICS n'avaient pas réussi à se mettre d'accord pour créer des câbles sous-marins ensemble, histoire d'échapper au fait que les Américains dominent totalement aujourd'hui ce système mondial des câbles sous-marins par lesquels transitent, passent toutes les données numériques. Sur la monnaie, personne ne veut du yuan comme monnaie remplaçant le dollar, parce qu'elle est totalement contrôlée par le capitalisme d'État chinois. Ensuite, l'ouverture du Conseil de sécurité à d'autres membres, histoire d'être plus représentatif des nouvelles réalités du monde, elle bloque avant tout sur les pays du Sud eux-mêmes, c'est-à-dire la Chine, qu'on lui parle d'une éventuelle entrée de l'Inde comme membre permanent au Conseil de sécurité devient hystérique. Et là, on a vu, par exemple, que le Brésil a bloqué la venue du Venezuela dans le club, mais pas parce que le Venezuela n'est pas démocratique, pour des simples questions de concurrence. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une hétérogénéité des BRICS qui fait que, bon, c'est bien que les émergents se montent, c'est bien, il faut rééquilibrer le système international, mais finalement, est-ce que c'est pas quand même une grande partie de poudre aux yeux?
Alors, qui veut répondre, Olivier Dallage?
Vous savez, ce qui est amusant, c'est que les BRICS sont les enfants du G8. Puisqu'en fait, ils se sont constitués en marge de la réunion du G8 à Saint-Pétersbourg en 2006, à l'initiative de la Russie, donc les quatre membres fondateurs, puis quelques années plus tard, l'Afrique du Sud est venue les rejoindre. Il faut repenser à la naissance du G7, quand Giscard d'Estaing avait invité à la Guadeloupe les plus grandes puissances économiques de l'époque, qui ne le sont plus toutes aujourd'hui. Et c'était informel, il ne devait pas y avoir de communiqué commun, c'était juste des conversations au coin du feu ou de la piscine, voilà. Et puis ça s'est formalisé. Qu'est-ce que les membres des BRICS ont à perdre si les communiqués communs n'aboutissent pas à des décisions? Rien du tout. Ils ne demandent pas à ce qu'on ferme le FMI ou la Banque mondiale, ils veulent créer quelque chose à côté, en complément. Et c'est du long terme, comme on le disait il y a quelques instants. Il n'y aura pas de monnaie commune. Mais qu'est-ce qui interdit, par exemple, d'ici quelques temps, d'ici quelques années, de décider d'une unité de compte qui sert de référence pour les transactions internationales? Et puis après, on paye dans une autre devise. Qu'est-ce qui interdit, et en fait rien du tout puisque c'est déjà le cas, de payer en devise locale, en bilatérale? L'Inde achète son pétrole russe avec des roupies, dont la Russie par ailleurs ne sait pas quoi faire parce qu'elle n'a rien à acheter avec. Et c'est pareil avec les Émirats Arabes Unis. Donc tout ça va prendre du temps, et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ils ont tout à gagner et ils peuvent prendre leur temps.
Plus de 40 pays aujourd'hui souhaitent rejoindre les BRICS en associé, plus ou moins. Alexandre Kateb, vous qui suivez cette alliance des BRICS quasiment depuis sa création, qui avait dû sourire quand vous l'entendiez donner pour morte pendant, me semble-t-il, toute la décennie 2010, est-ce que vous pouviez quand même imaginer que 40 pays frapperaient à sa porte en 2024 ?
Absolument pas, non. J'imaginais pas déjà qu'il y aurait quelque part cette renaissance des BRICS en 2023 au sommet de Johannesburg, parce que c'est vrai que cette organisation était donnée pour cérébralement morte, si j'ose dire, pour reprendre une expression.
Sur
mais
le temps,
voilà, on voit que en fait le momentum est revenu à la faveur de la guerre en Ukraine. Mais aussi des tensions entre la Chine et les États-Unis. Et finalement, les BRICS sont apparus, l'organisation des BRICS est apparue, le groupement des BRICS, comme une sorte d'échappatoire, voire comme un forum très utile pour construire des alternatives à ce monde occidental dont des pays comme la Chine ou la Russie aujourd'hui se trouvent à des degrés divers, sinon exclus, mais on va dire ostracisés et sanctionnés pour un certain nombre de leurs institutions et de leurs entreprises. Donc il y a cette volonté, effectivement, de faire de ce groupement une sorte de laboratoire. Une sorte de laboratoire du monde qui vient. Et ce monde qui vient, les BRICS en sont convaincus, et tous les pays qui veulent les rejoindre, n'aura plus la même forme que celle du monde actuel qui a été façonné par les États-Unis et leurs alliés. Et c'est dans cette perspective de long terme de désoccidentalisation du monde, quelque part, je pense que se placent tous ces pays. À très court terme aussi, il y a un objectif qui est beaucoup plus pragmatique, c'est d'intégrer des nouveaux réseaux de socialisation d'affaires qui sont créés en fait par le bas. Donc il y a des réseaux de la société civile, du monde des affaires, et ces réseaux-là, on n'en parle pas, mais ils sont très présents. C'est ce qui explique qu'un pays comme les Émirats Arabes Unis est très intéressé à rejoindre cette organisation et à développer tous les instruments qui en font partie, parce que ça, un hub d'affaires comme les Émirats a tout intérêt à se projeter parmi les nations les plus dynamiques. Et d'ailleurs, je remarque qu'au moment où s'est tenu ce BRICS, ce sommet des BRICS, il y a eu les assemblées d'automne du FMI et de la Banque mondiale, et les premières conclusions sont sorties, et elles indiquent que les BRICS vont contribuer davantage que le G7 et que les pays occidentaux de manière générale à la croissance mondiale dans les 5 années à venir. Donc ça, c'est quand même quelque chose, une coïncidence quand même assez frappante.
Marc Sémo.
Oui, mais si on va au-delà de l'économie, et pour parler par exemple des questions de sécurité collective, là, l'hétérogénéité est encore plus fracassante. C'est-à-dire, on a l'Inde, qui, somme toute, collabore avec les États-Unis dans le système Quad face à la Chine. On a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui sont quand même globalement assez proches des États-Unis. Le Brésil, qui est un peu hésitant. Non, mais ils marquent leur différence. On est dans un monde de diplomatie transactionnelle, on pousse ses intérêts et tout. Mais sur les fondamentaux, ils sont quand même bien contents d'être garantis pour leur sécurité par les États-Unis. Il en est de même pour l'Égypte. Sur la question du Moyen-Orient, il y a l'Inde qui a quand même des positions nettement différentes et plutôt pro-israéliennes que nombre d'autres pays. Donc, est-ce que, finalement, on n'est pas dans une... Bon, la force du G7 et ses limites... Ben, c'était malgré tout d'être quelque chose d'assez homogène, de pays qui partageaient un certain nombre de principes, de valeurs et d'intérêts communs et de visions communes. Là, on est quand même dans une espèce de mini-ONU sans conseil de sécurité.
Olivier
Dallaire. Si je renverse le paradigme, c'est-à-dire que la force des BRICS, c'est leur hétérogénéité. C'est une auberge espagnole. Chacun apporte ce qu'il peut et rien n'est exclusif. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent bien. On sait bien que, par exemple, l'Inde et la Chine ont des problèmes frontaliers.
Ils sont un peu résolus là, mais...
On verra pour combien de temps, mais bon, voilà.
Et toutes ces patrouilles font très
bien. Mais un excès d'homogénéité, ça contraint à l'autocensure, à s'empêcher des choses. Et finalement, la question est, quel est le message du G7 aujourd'hui ? À partir du moment où les BRICS ne cherchent pas à imposer, ils n'en sont pas capables, on est d'accord, mais à imposer un langage unique, que chacun s'exprime, là j'ai le résumé du communiqué final qui fait 54 pages ou quelque chose comme ça.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce communiqué ?
C'est quand même beaucoup de portes ouvertes.
C'est beaucoup de portes ouvertes, absolument, chacun y a déposé...
On est pour la paix et la stabilité dans le monde.
Une force stabilitrice pour la paix, un défi voilà. Majeur auquel doit...
Chacun a déposé ce qui...
C'est difficile d'être contre.
Mais, encore une fois, dans le long terme... dans la construction, ils ont le temps pour eux. Ils ont la démographie, ils ont même l'économie, à terme.
Mais la démographie chinoise, pour les prochaines années, elle est pire que celle de l'Europe.
Oui, oui. Mais globalement...
Donc c'est un pays qui va, comme on l'a déjà dit à une époque, devenir vieux avant d'être riche.
Oui, c'est le sourd qui atteint l'Inde dans 50 ans, on est d'accord. Mais en attendant, pour le moment, ils prennent quand même une place croissante. Et je dirais que le succès éventuel, enfin relatif des BRICS, c'est d'abord l'échec du G7 à avoir regardé de leur côté. Ils ont ignoré, ils ont méprisé, ils ont regardé ses petits cousins de haut. Et pendant ce temps-là, les autres, ils se sont dit, on veut pas nous, on va construire notre truc de notre côté. Et ça prend, ça se fait.
Et en même temps, il me semble que sur ce sujet-là, les États-Unis se montrent plutôt bons joueurs, puisque le Département d'État a écrit encore récemment que les pays sont libres de choisir leurs partenaires et les groupements auxquels ils s'associent, et que ça n'empêchera pas les États-Unis de continuer à travailler avec eux. On verra ce que change éventuellement l'élection de Donald Trump, mais en tout cas, Vladimir Poutine l'a cité dans ses discours, Donald Trump, en le saluant pour les efforts qu'il ferait pour la paix en Ukraine, par exemple. Donc on imagine avec quelle impatience il attend les élections du 5 novembre. Novembre et ses résultats. Alors, comme on a dit au début de l'émission que ce sommet était, en tout cas dans la tête de Vladimir Poutine, un sommet, non pas des BRICS, mais de la Russie, enfin, un sommet par et pour Vladimir Poutine, il se trouve que le Grand Continent avait publié en avril, le site Le Grand Continent, la doctrine de la majorité mondiale de Sergueï Karaganov. C'est l'un des architectes de la politique étrangère russe et sa stratégie point par point pour articuler les échelles, mettre en œuvre ce que Moscou appelle désormais la majorité mondiale face à un Occident, désormais en minorité démographique et culturelle de tous les BRICS, Alexandre Kateb, est-ce que la Russie est la seule à envisager cette alliance comme un ordre mondial alternatif ?
Je ne sais pas si la Russie l'envisage comme un ordre mondial alternatif. En fait, je pense que la Russie a trouvé dans les BRICS un instrument commode pour quelque part organiser une forme de résistance ou de résilience vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des sanctions occidentales, notamment depuis la guerre en Ukraine. Et donc, il est certain qu'elle y trouve un intérêt qui traduit aussi une forme de déception profonde des Russes, qui date d'avant la guerre en Ukraine, vis-à-vis de l'Occident. On a suivi ça avec... il faut savoir qu'en 2002 ou 2003, Vladimir Poutine envisageait de rejoindre l'OTAN et de sceller une alliance avec l'Occident et avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, on est très loin de cet état d'esprit parce que finalement, la Russie a l'impression que beaucoup de promesses n'ont pas été tenues, que sa sécurité a été menacée par l'élargissement de l'OTAN, et que ce soit vrai ou faux, que ce soit... réaliste ou fantasmé, mais c'est la perception qui prime à Moscou et les BRICS lui permettent aussi de desserrer cet étau occidental et de se projeter vers un monde qui ne serait pas dominé par l'Occident. La Chine, en fait, tombe à point. Notamment suite à cette animosité croissante entre la Chine et les États-Unis, qui est à mon sens structurelle. C'est une véritable guerre froide d'un nouveau type, qui s'appuie plus sur l'économie que sur le militaire, mais la composante militaire pourrait venir un jour. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment un opportunisme de la part de la Russie, certes, mais il y a aussi un certain nombre de facteurs qui laissent à penser que il y a aussi une rationalité dans ce choix.
Alors, juste avant de laisser la parole à Marc Semo qui voudrait vous poser une question, je voulais juste, parce que sinon la discussion va passer, je ne vous aurais pas posé cette question-là, Alexandre Kateb, sur la plateforme de prospective en géopolitique que vous avez montée, qui s'appelle The Multipolarity Report. Donc, on est bien dans le sujet du jour, un monde multipolaire. C'est une plateforme de prospective qui est basée sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de nous dire sur le rôle que la Russie s'est donné dans les BRICS, et notamment depuis 2014, mais surtout ce qui advient. C'est une réflexion que vous basez sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que, en fait, l'intelligence artificielle permet de détecter des signaux qui passerait inaperçu parce que la capacité des êtres humains et des experts, quels qu'ils soient, à analyser des flux d'informations croissants reste limitée. Et c'est là où l'intelligence artificielle, finalement, peut apporter une aide précieuse en décryptant les différents discours, les récits, les narratifs des uns et des autres, en permettant de comprendre les biais d'analyse et les biais dans les communiqués officiels, par exemple. Donc, de faire ce travail, finalement, de décryptage et d'analyser les informations qui sont vraiment pertinentes ou qui augure en fait de développement qui demain serait beaucoup plus important, mais qui passe inaperçu dans les médias entre guillemets mainstream, même si certains reportent des incidents ou des faits, mais ce n'est pas forcément mis en avant de la manière qui est la plus pertinente.
Alors, l'intelligence artificielle, ça ne manquera pas de nous plonger dans des abîmes de questions et de réflexions. Ça fera l'objet peut-être d'une autre émission. Marc Sémo.
Oui, alors, je voulais revenir sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas deux briques sans un ? C'est-à-dire, d'un côté, un groupe qui est la Russie, qui est l'Iran, le Venezuela, s'il avait pu rentrer, en grande partie la Chine, qui sont en train de se structurer comme une véritable alliance, d'une certaine façon, face à l'Occident. Et puis, de l'autre, la masse de ce qu'on appelait à l'époque communiste les idiots utiles, c'est-à-dire bon, de pays qui sont là pour des intérêts variés, à court terme, pour des intérêts d'image, pour en espérant quand même grappiller des financements, etc. Et que finalement, d'une certaine façon, cette espèce de double nature pourrait être un peu difficile dans la navigation des prochaines années.
Olivier Dallage.
Je ne suis pas sûr que la Russie soit le leader des BRICS. En fait, au sein des BRICS...
De ce noyau au sein des BRICS. C'est elle qui a voulu l'élargissement. Comme la Chine, d'ailleurs, pour les mêmes raisons.
Oui, mais chacun voit les choses à sa manière. L'Inde se voit comme le porte-parole du Sud global.
Elle veut quand même pas trop ouvrir les BRICS. Elle dit qu'il faut 2 à 3 ans de réflexion.
Et le Brésil non plus. C'est la Chine. Mais, comment dire, il n'y a pas de pouvoir d'attraction de la Russie, à mon avis, au sein des BRICS, sauf peut-être chez certains. La Chine a un pouvoir d'attraction pour un certain nombre, mais elle fait peur à d'autres. Et donc, c'est cet équilibre interne où chacun se surveille et coopère tout en étant en rivalité et quelquefois même en hostilité qui fait cette hétérogénéité des BRICS. Ce qui ne revient pas à dire que c'est rien du tout. Mais je ne crois pas, encore une fois, que la Russie tire l'attelage. Elle voudrait bien, mais elle n'est pas en situation de le faire.
Alors, comme chaque vendredi dans Culture Monde, nous retrouvons notre partenariat avec l'association dessinateurs de presse Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes et cette semaine, un dessin signé un caricaturiste ukrainien Dubovsky. Il figure, et vous avez le dessin sous les yeux, il figure les participants au sommet des BRICS entassés dans une barque en bois laquelle est fichée dans un désert de sable et à la proue, si je puis dire, de la barque, un homme debout, hirsute, débraillé, désignant le large et comme s'il voulait encourager ses passagers taciturnes. Il crie « Water, de l'eau », dessin à découvrir sur le fil de notre compte Twitter et sur la page internet de Culture Monde. Une réaction à l'un et à l'autre. Comment est-ce que vous lisez ce dessin du caricaturiste ukrainien Dubovsky, Alexandre Kateb ?
Moi, je le lis comme en fait l'illustration d'un décalage entre ce que les BRICS voudraient représenter et la réalité au niveau économique et géopolitique mondial. Mais je pense que ce dessin, en fait, justement, ne considère pas cette dimension de long terme et cette transformation qui est en train de se produire. Et peut-être que dans quelques années, ce sera, on verra dans cette même barque le G7 ou les pays occidentaux. Donc voilà, j'extrapole et je caricature aussi à mon tour, mais il faut aussi remettre en perspective ce genre de développement.
Olivier Dallage, vous voyez qui, vous, dans cette barque ?
C'est un dessin qui provoque beaucoup de perplexité. Il y a plein de significations possibles. Peut-être qu'il y en a qui étaient dans l'intention du dessinateur et d'autres pas. Bon, vous avez dit que le dessinateur est ukrainien, et c'est assez logique parce qu'il montre les gens à bord de cette barque comme étant effrayés, apeurés, et on sait que l'Ukraine est assez furieuse du fait que tous ces pays se soient réunis en Russie. Donc je peux comprendre ça. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ce type qui est debout, qui pointe du doigt l'avant de la proue de, et au-delà de la barque, en disant « de l'eau », mais on ne sait pas ce qu'il montre. On ne sait pas vers quelle direction, où est-ce qu'il voit de l'eau. Bon, ça donne quand même le sentiment que ce sont des gens un petit peu perdus, qui ne savent pas ce qu'ils font, et je ne pense pas que ça corresponde tout à fait à la réalité non plus.
Et ils se ressemblent tous les uns les autres, ces passagers, c'est peut-être eux la majorité mondiale, comme dit la Russie au sujet, on ne sait pas, puisqu'en fait la majorité mondiale, il n'y a pas de connotation spatiale, à l'inverse d'une lecture qui dirait les pays du Nord, les pays du Sud, l'Occident et l'Orient. En fait là, il n'y a pas de vraiment de connotation, Alexandre Kateb, dans cette expression de la majorité mondiale.
Il y a l'expression en fait qui est très utilisée aujourd'hui, c'est le Sud global.
Mais justement là, c'est un peu ça s'inscrit en opposition.
En fait, non, parce que selon la phraséologie russe et chinoise, le Sud global s'inscrit dans cette majorité globale, dans laquelle il y a aussi de plus en plus cette idée d'Orient qui a été avancée à ce sommet, notamment par les Russes. Donc, la majorité globale serait l'addition du Sud global et de l'Orient, des pays asiatiques. Donc, l'Amérique du Sud est considérée comme faisant partie du Sud global. On voit qu'il y a cette espèce de concept qui se dessine, hein, et qui finalement fait penser à l'ancien mouvement des non-alignés ou à d'autres groupements de ce type qui se définissaient par opposition à certaines alliances occidentales.
Alors Vladimir Poutine a, dans son discours de clôture hier, beaucoup parlé du continent africain en évoquant de nouvelles plateformes d'investissement qui utiliseront des outils pour atteindre, je le cite, la non-inflation et créer des conditions d'investissement rapides et efficaces des marchés en développement, y compris et surtout en Afrique. On a beaucoup évoqué les enjeux politiques, géopolitiques de cette alliance. Les enjeux économiques sont très importants pour les pays des BRICS, pense-t-il. On est là face à une alliance, mais là aussi assez hétérogène, puisqu'il y a des producteurs de pétrole et des pays consommateurs. Des pays qui tous ont plutôt intérêt, on en parlait hier dans notre série sur la biodiversité, à ce que soit le plus possible rétribué l'utilisation par les pays industriels de leurs ressources génétiques. En tout cas, il y a si l'homogénéité est là entre ces pays des BRICS, c'est dans l'intention qu'il y a de mieux répartir le commerce et l'économie mondiale. Olivier Dallage.
Non, fondamentalement, enfin, de toute façon, la Russie n'est pas en situation d'aider qui que ce soit. Son économie est inférieure à celle de l'Italie. Pour reprendre l'expression très méchante qu'avait utilisée Obama, c'est une station-service avec une bombe atomique. Hein. Bon. Mais en revanche, la question de trouver une alternative au dollar en tant que moyen de paiement est essentielle parce que tout simplement, les États-Unis ont décidé unilatéralement que le simple fait d'utiliser le dollar, même pour établir un montant, pas pour faire la transaction, leur donnait juridiquement le droit de prendre des sanctions. Et donc tout le monde se sent potentiellement menacé. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est parce qu'ils ont fait ce qu'en anglais on appelle de l'overreach, ils sont allés très très loin, que ça suscite une réaction. Je crois pas. Alors après, il en découle des mécanismes peut-être d'aide entre pays du Sud, mais les relations Sud-Sud, c'est pas né avec les BRICS. Hein. On parlait tout à l'heure du monde des non-alignés, il y avait le G77, il y a eu toute une série de mouvements qui n'ont d'ailleurs pas disparu, qui se sont un petit peu éteints de leur belle mort tout en survivant, et les BRICS prennent le relais.
Marc Sémo.
Il y a toujours eu ces tentations, mais dans les faits, si je me souviens bien, la part du commerce mondial sud-sud, c'est minime.
Ça monte, ça monte.
C'est 3%.
Il y a un effet de seuil, à un moment donné.
C'est 3%.
Ah non, aujourd'hui, le commerce mondial, c'est... en tout cas, le commerce entre les pays
sud-sud,
du Sud...
Hein.
Oui, Sud-Sud, c'est peut-être... Je pense qu'on est plutôt autour d'un tiers du commerce mondial, hein, aujourd'hui.
Est-ce qu'on met la Chine dedans, par exemple?
Si on met la Chine dedans, effectivement.
Oui, mais si on ne met pas la Chine dedans, qui est quand même, de ce point de vue-là, un faux pays émergent du Sud, ça fait beaucoup moins.
Oui, mais là, si on parle des BRICS, on est obligé de mettre la Chine dedans.
Et si on parle de dédollarisation, on en parlait tout à l'heure, il y aurait quoi comme modèle alternatif? Parce que les crypto-monnaies, c'est quand même profondément instable. Le franc suisse, il est pas
au
niveau.
Une unité de compte, la compensation.
Et le yuan, ça pose quand même des gros problèmes, y compris pour des pays comme la Chine.
Comme l'Inde, Olivier Dallage.
Non, mais il peut y avoir des systèmes de compensation sans aller jusqu'à la monnaie, qu'elle soit physique ou fiduciaire. C'est-à-dire qu'on établit un mode de calcul qui élimine le dollar en tant qu'unité de compte et de transaction. Ça laisse quand même une certaine marge. Alors c'est vrai que l'Inde ne veut pas entendre parler du yuan comme alternative au dollar, on peut comprendre pourquoi. Mais encore une fois, l'Inde commerce avec la Russie en roupie, elle fait de même avec les Émirats Arabes Unis, pas pour la totalité de son commerce, mais pour une partie. Et ça peut être un modèle, c'est clairement un des modèles qui en tout cas est présenté par les BRICS dans leur communiqué.
Alexandre Kateb.
Oui, je pense que il faut, si on se place dans une perspective historique, il faut bien comprendre que le rôle du dollar en tant que monnaie mondiale est un accident de l'histoire. Ça n'aurait pas dû être le cas. À la base, au sommet de Bretton Woods, l'objectif, c'était de créer effectivement cette unité de compte mondial qui a été créée, mais qui n'est pas forcément utilisée en dehors des circuits du FMI. Mais si le dollar s'est imposé, c'est parce que l'Europe s'était effondrée et qu'il n'y avait pas d'autres alternatives à l'utilisation du dollar. Mais aujourd'hui, la situation a profondément changé d'un point de vue économique, donc on peut très bien envisager que dans 10 ans, dans 20 ans, cette situation anormale de pouvoir exorbitant du dollar finalement prenne fin.
Un tout petit mot de conclusion, il nous reste moins de 2 minutes pour se poser la question des nouveaux entrants, puisqu'on a dit très rapidement que le Brésil avait mis son veto à l'entrée du Venezuela comme candidat au BRICS. La Chine, la Russie plaident pour l'élargissement des BRICS, d'autres moins comme l'Inde qui pensent qu'il faut temporiser. Bon, qui a intérêt à ce que qui entre en gros dans le club, sans remettre en cause, sans que ça devienne vraiment ingérable, Olivier Dallage.
Mais l'annonce au sommet de Kazan, d'accord avec 13 partenaires, me paraît très intéressante parce qu'ils ont réussi à dépasser cette difficulté. On n'élargit pas, ils créent un deuxième cercle. Et donc, ce sera des zones d'influence concentriques et progressivement, par consensus, c'est important, consensus dans cette affaire-là, ils accepteront d'admettre au compte-gouttes ou par petits paquets, on ne sait pas très bien, dans les années suivantes, d'autres membres. Et en attendant, il y a une salle d'attente tout autour qui a été créée pour n'exclure personne.
Alexandre
Kateb. Oui, c'est d'ailleurs ce que fait aussi le G7. Le G7 a créé une sorte de deuxième cercle en invitant au dernier sommet des pays choisi un peu parmi les pays émergents et en développement, dans cette idée de outreach en anglais, qui en fait a été reprise par les BRICS eux-mêmes. Donc, et on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays qui sont à la fois partie prenante des dynamiques créées par le G7 et de celles qui sont créées par les BRICS et qui ne veulent pas choisir. En fait, c'est aussi ça la réalité.
Merci beaucoup à vous d'être venu pour en parler dans ce studio. Alexandre Kateb, économiste, essayiste et consultant spécialisé dans les relations internationales, fondateur de The Multipolarity Report. Olivier Dallage, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde et de la péninsule arabique, ancien journaliste à RFI. Merci d'être venu parler des BRICS et on se quitte avec Asifani de la chanteuse sud-africaine Pilani Boubou.
Asifani sing about Asibabo. Asifani sing a band, asibabona abanye abantu, selahlekelwe bubuntu thina, asifani sing a band, abanye bakhulu kwa
avaliwe kukhona abaphila abanye basaliwe kukhona abavakalelwa yintlupheko yabanye benzela imali bona asifani singabantu asifani singabantu masijonge esipilini masijonge entliziyweni sizobona ukuthi thina siyafana siyafana masijonge esipilini masijonge entliziyweni sizobona ukuthi thina siyafana siyafana.
Asifani de la chanteuse sud-africaine Pilani Boubou, c'est l'extrait d'un album Naï Indaba paru cette année en burkinabé Ngouni. Cette chanteuse Naï Indaba évoque un rendez-vous, paraît-il, pour discuter de problèmes importants. Ça ressemble à un sommet des BRICS. Merci d'avoir été avec nous. Marc Sémon, on vous retrouve la semaine prochaine, comme chaque vendredi, avec Mélanie Chaland. Donc vous retrouverez, quant à moi, dès lundi, on commencera une série de Culture Monde consacrée entièrement au Japon, à l'occasion de législatives anticipées. Dans un instant, les midis de culture.
France Culture. Chaque vendredi, le Book Club s'invite chez une personnalité et visite sa bibliothèque.
Mathilde Wagman.
Aujourd'hui, c'est l'écrivain Pierre Bergougnoux qui nous ouvre ses portes et déballe pour nous ses rayonnages. S'y côtoient Marx, Shakespeare, Faulkner, mais aussi un guide de l'Aquitaine orientale et un traité d'entomologie.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est bientôt midi. Bonjour Marie Sorbier.
Bonjour Julie.
Au programme des Midis de Culture aujourd'hui.
Eh bien justement, vous parliez du Japon. Eh bien nous, nos critiques ce midi.